Pour que toutes puissent témoigner, un comité veille à l'ordre du jour. Au palmarès des préoccupations les plus fréquemment exprimées en réunion et dans les colloques qui les prolongent, les économies alternatives, le dénouement des conflits et l'environnement. Avec en prime des détours dans les coulisses de l'histoire du féminisme. Retour en arrière incontournable pour remettre les pendules à l'heure.
And you know what Mao Zedong said? One of the most brilliant statements about women was made by Mao Zedong. And I'd like to remind you of this. And this is so beautiful that I have said it many times. He said that both men and women who are poor in the rural areas, peasants, carry four types of burdens on their back. What are these burdens? One is the state. You know, the dominance of the state power. State power. Second is the religious power. You know, you should do this, you should not do that. You know, I'm a priest and I am going to report to God what you are doing and so on. That kind of power, religious power. The third power is the power of your own community and your neighborhood and your peers. And they say, oh my God, look at this person, he's doing this. These are the three, and you're carrying this burden on your shoulder. But the difference between men and women is that women are carrying an extra burden. And what is that extra burden? The man is sitting on her back.
Alors, je vais vous traduire cette plaisanterie racontée par une femme dans le train Helsinki-Pékin, ce train organisé par la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, ce train dont le voyage a été montré dans un film lors du 8 mars qui a pour titre Carnet de route. Alors, que racontait cette femme indienne? Elle disait que c'est une histoire que racontait Mao Tse-tung et elle la trouvait absolument délicieuse et elle voulait nous la raconter. Eh bien, Mao Tse-tung dit que les hommes et les femmes sont à égalité lorsqu'ils doivent assumer trois charges très lourdes sur leur dos. Premièrement, le pouvoir de l'État qui les contrôle, le pouvoir religieux qui les menace et qui leur dit « Ah, je vais raconter à Dieu ce que vous faites ». Le pouvoir des traditions et des voisins, ah, ta, 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 ta. Et puis, ces trois pouvoirs qui sont partagés par les hommes et les femmes, et bien, il y a quand même pourtant une différence entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes, elles ont une quatrième charge sur leurs épaules, c'est qu'elles portent l'homme sur leur dos.
Améliorer la situation. L'avortement est resté la méthode principale et en plus les femmes ont peur de naître des enfants et étant donné la situation économique actuelle.
Poor payment wage, our wage is very poor and the prices are for us very high, so it is very difficult now, just now, this year.
Dans ta gueule de loup, balancer, valser, balancer jusqu'à toi. Oh, balancer, j'arrive de haut en bas. Balancer, reggae, pour balancer, bossa. Oh, déboussant de moi, déshabille-moi. J'en ai rêvé la nuit et tu m'as souri. J'ai sauté du lit, enlevé mon baignoire en catimini. À 6 heures du mat, à moitié bitu, j'ai voulu crier toute nue. Jusqu'à toi, on balançait, j'avape de haut en bas. Balancer, reggae, pour balancer, bossa. On déboussant le moi, déshabille-moi. Petit déjeuner doux, bain moussant tout fou. Maquillage roux, mes yeux de canaille, mes cheveux en bataille. Une balade sur la Seine et puis le chant des sirènes. Et je te balance l'oxygène. Balancer, valser, balancer jusqu'à toi. On balançait, j'avape. Balancer, reggae, balancer, bossa. En déboussant de moi, des déshabille-moi. Oh, visage pâle, tu t'installes sous ma toile. Dans le noir animal, je t'avalerai. Je te pique de musique, mosaïque, blanche et noire. Je t'invite et à toi de jouer. Ah, ah, qui s'assemble, se ressemble dans le temple des histoires de la série Noire au pays des merveilles. Hey, moi je veux que ça balance, que ce soit des vacances et qu'on se dise un salut au soleil. Balancez-vous, balancez-moi, balancez tout de haut en bas. Balancez-vous, balancez-moi. Mes cheveux en bataille, une balade sur la Seine et puis le chant de sirène. Et je te balance l'oxygène. Balancez Java, balancez reggae, balancez bossa, balancez valse, balancez Java, balancez reggae. Balancez bossa, balancez, balancez,
Morane, pour nous accompagner aujourd'hui dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Et vous l'aurez compris, bien évidemment, c'était Balancé. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous lire le billet d'humeur qu'a écrit Patrice Munier, rédacteur en chef du Courrier quotidien genevois, à propos de, disons, humeur sur sa déception. Déception à cause du choix des femmes, croit-il. Alors, je vous le lis intégralement. Demain 8 mars, donc son billet d'humeur date du 7 mars, demain 8 mars débute une série de manifestations pour marquer la Journée internationale des femmes. L'année dernière, le Courrier avait publié un cahier spécial contenant des textes écrits par des femmes d'ici et d'ailleurs. Dans un deuxième temps, nous avons proposé aux associations actives dans la défense de la cause des femmes de produire régulièrement des pages sur leurs activités et leurs réflexions. Pour des raisons financières notamment, cette proposition n'avait pas été suivie d'effet. Cela ne nous a pas empêchés de nous faire l'écho de leurs activités, souvent dans des proportions plus importantes que les autres journaux. Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir que cette année, les organisatrices de cette journée internationale avaient décidé de collaborer avec la Tribune de Genève. Pourquoi relater cette affaire dans nos colonnes? Pour une simple raison. Nous vivons très régulièrement ce genre de situation. Tout au long de l'année, de nombreuses associations font appel à notre journal, notamment parce que nous sommes le seul média à nous intéresser régulièrement à leurs activités. Mais dès qu'un confrère plus puissant est susceptible de s'intéresser à une de ces associations, rares sont celles qui résistent à ces sirènes. Nous ne prétendons pas à l'exclusivité. Et nous considérons comme normal et même souhaitable que des actions militantes puissent être connues d'un public plus large. Ce qui nous désole, c'est que ce choix d'un autre journal s'accompagne généralement d'une disparition de la collaboration avec le Courrier. Dans le cas particulier des femmes, pourquoi ce cahier spécial n'aurait-il pas pu être coproduit par la Tribune et le Courrier ? Si toutes les associations, organisations et personnes qui devraient nous soutenir et non seulement nous utiliser étaient cohérentes, notre journal n'aurait pas de problème financier. Par cohérence, nous entendons le fait de distinguer les relais de l'idéologie dominante de ceux qui tentent de promouvoir un monde différent. Heureusement, le socle de lecteurs fidèles et généreux sur lequel nous pouvons nous appuyer est solide. Billet d'humeur, signé Patrice Munier. Alors, bien sûr, ce que je vais dire là n'engage que moi-même, mais je pense que Patrice Muni, disons, ne sait pas, et peut-être est-ce notre faute parce que nous n'avons pas su le lui dire avant qu'il écrive son billet d'humeur et qu'il ressente cette déception, ne sait pas les raisons qui ont fait que les femmes n'ont pas cette fois-ci collaboré avec la Tribune de Genève. Je pense que la démarche vient principalement de la Tribune de Genève en direction de F Information. Comme le disait Marina Descaro, les associations de femmes n'ont pas été du tout associées à la rédaction de ce cahier, enfin ces pages spéciales, parce que c'est pas un cahier, c'est pages spéciales dans la Tribune de Genève. Et si les femmes n'ont rien fait dans le courrier, je crois que c'est tout simplement par manque de force, manque d'énergie, de préparer encore un cahier spécial dans le courrier. Alors, je pense qu'il recevra sûrement d'autres avis que le nôtre, mais quant à nous, nous nous réjouissons de recollaborer avec le courrier, puisque en tant que femme, nous l'avons déjà fait, entre autres le 14 juin dernier. Eh bien, il y avait un article de la Tribune de Genève parmi les très nombreux qui ont été écrits, effectivement, et je crois que ce que disait Marina Descaro est aussi particulièrement intéressant à relever, c'est que ce sont les journalistes du journal qui ont écrit ces articles. Ça, c'est peut-être aussi une remarque que nous pourrions faire à Patrice Muni, c'est que les femmes du courrier pourraient se mettre aussi à écrire sur les femmes, puisque c'est vrai que sa proposition d'accepter des articles écrits par des associations extérieures au journal, c'est intéressant, que les associations de femmes, par exemple, sachent qu'elles ont un espace dans lequel elles puissent écrire dans le journal du courrier, c'est intéressant, mais peut-être aussi, on aimerait bien que les journalistes du courrier femmes s'engagent aussi à faire des articles à propos des femmes. Et c'est surtout ça qui est intéressant dans, je trouve, ces pages spéciales de la Tribune de Genève de ce 8 mars 1996, c'est que ce sont les journalistes du journal lui-même qui se sont engagés sur des pistes pour aller savoir ce qu'il advient des femmes. Alors, tous les sujets les plus divers sont abordés, certains de façon ultra habituelle et ne nous révèlent rien de spécial, donnant la parole à des femmes qui sont sur les chemins des hommes, les questions sur la politique, bien évidemment, etc., etc. Beaucoup d'articles. Et puis, il en est un qui, par son urgence, a attiré mon attention et me donnait envie de vous le faire partager. C'est celui qui parle de la situation de milliers de femmes qui, aujourd'hui, vivent à la limite du dénouement. Plus la crise se prolonge, eh bien, plus elle touche les femmes. Ça, c'est un constat que nous avons déjà fait, dont nous avons déjà parlé. Elles sont les plus vulnérables et surtout celles qui ont soit pas du tout, soit un peu de formation, qui n'ont jamais travaillé ou qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, et les femmes divorcées. Alors, elles sont des milliers qui vivent à Genève à l'oreille de la pauvreté. Et Pascal Zimmermann, donc journaliste femme à la Tribune de Genève, s'est penché sur leur statut, leur situation. Elle écrit « Femmes divorcées pour la plupart, elles vendent seules leurs enfants, femmes sans profession, presque sans formation, femmes cherchant en vain un emploi en raison de leur âge, de leur inexpérience, de leur manque de qualification, elles tirent le diable par la queue et cas à cas parviennent à faire tourner leur ménage au prix d'énormes efforts et de nombreux renoncements. Sur ces femmes-là, la crise a eu particulièrement prise ces deux dernières années. Il n'est pas question ici de personnes marginales vivant nettement dans la pauvreté pour de multiples raisons, ni des centaines d'étrangères résidant et travaillant illégalement à Genève, mais d'une catégorie de femmes appartenant à ce qu'on pourrait nommer la petite bourgeoisie et qui, au détour d'un divorce, d'un licenciement, pour elles ou pour leur conjoint, se retrouvent de but en blanc à la limite du dénuement. On suit leur piste au chômage, bien sûr, mais aussi dans les bureaux d'aide aux familles monoparentales ou dans les services d'avance des pensions alimentaires impayées par le conjoint ou auprès des œuvres d'entraide. Et en bout de course, on retrouve leurs traces à l'hospice général. Quand elles ont tout essayé et qu'elles ont le sentiment terrible de toucher le fond. Le profil de la précarité, eh bien, à quoi ressemble-t-il? Ce sont des femmes pauvres dans une ville riche. C'est aussi ce titre-là, le titre d'une étude menée entre 1989 et 1991 par l'association F Information et le Bureau de l'égalité des droits entre hommes et femmes, et qui parvenait à l'époque à la conclusion que de nombreuses femmes vivent à Genève dans des conditions matérielles difficiles. Nous connaissons bien le profil de la précarité féminine, souligne Choukoufé Samy, qui est sociologue et qui a participé étroitement à cette étude et travaille à F Information. Il s'agit de femmes qui se sont mariées jeunes, sans avoir fait de formation ou très peu, qui ont vécu selon des schémas traditionnels de dépendance financière totale à l'égard de leur mari. et n'ont pratiquement pas d'expérience professionnelle. Si ces personnes ont travaillé en dehors de leur famille, elles ont souvent exercé une activité à temps partiel afin d'élever en parallèle leurs enfants. C'est aussi un facteur de précarisation. Les emplois à mi-temps sont mal rémunérés, parfois même à l'heure, à la semaine ou à la tâche. Et elles sont plus menacées en cas de licenciement, pénalisées dans un cursus de carrière plus masculin, c'est-à-dire sans interruption ou réduction de l'activité professionnelle. D'autre part, la discrimination salariale existe bel et bien. Il est des secteurs où une femme payée est payée à 30% de moins qu'un homme. Alors, en cas de séparation ou de divorce, ces personnes vulnérables sur le plan économique se retrouvent dans une situation très instable et celles-ci deviennent carrément tragiques si elles ont plus de 45 ou 50 ans. Il y a 10 ans, une femme qui divorçait se trouvait généralement confrontée à une chute nette de son niveau de vie. Toutefois, même sans grande qualification ou expérience professionnelle, elle parvenait souvent à trouver un emploi. Actuellement, les paramètres sont radicalement différents. Non seulement cette femme-là a toutes les peines du monde à se réinsérer sur le marché du travail ou à compléter son temps partiel, mais son ex-mari est dans de nombreux cas confronté lui aussi à des difficultés financières et se trouve dans l'impossibilité de verser la pension alimentaire qu'il lui doit. Alors, plus la crise se prolonge, plus les femmes souffrent du chômage. Et l'examen du taux de chômage dans le canton de Genève ces 7 dernières années nous montre que la crise se prolonge, plus les femmes payent cher cette situation. Effectivement, si je regarde des chiffres qui sont donnés dans un tableau qui figure dans l'article de Pascal Timmerman, eh bien, je vois que par exemple en 1989, pour prendre les deux extrêmes du tableau, 43% de femmes se trouvaient au chômage, 56% d'hommes étaient au chômage, une moyenne d'1% pour l'ensemble de la population genevoise. Et qu'en 1995, alors que le taux de chômage a grimpé à 6,4%, eh bien, il y a 46,8% de femmes au chômage et 53,2% d'hommes au chômage. Donc, le pourcentage des hommes au chômage a baissé de 3%, alors que celui des femmes a monté de presque 4%. En effet, le taux augmente donc pour les hommes jusqu'en 1993, mais il se stabilise en 1994 et même commence à descendre donc en 1995. Pour les femmes, c'est exactement l'inverse. La progression se poursuit jusqu'en 1994, date à laquelle le chômage est le plus haut puisqu'il atteint 8%. La stabilisation se fait en 1995, mais la plupart des femmes dans le chômage total passent donc de 42,4% en 1993 à 46,8% en 1995. Alors, pourquoi les femmes sont-elles plus touchées par le chômage que les hommes? C'est certainement parce que, de manière générale, elles sont moins qualifiées que leurs homologues masculins. Au cours de la crise de l'emploi que nous traversons depuis le dernier trimestre 1990, nous avons vu souvent le cas suivant. Une jeune femme est employée dans un bureau sans détenir de CFC adéquat. Elle est coiffeuse ou fleuriste de formation. En cas de licenciement dans l'entreprise, c'est évidemment elle qu'on va mettre à la porte en premier. Elle va se retrouver sur le marché du travail pour sa profession de base, constate par exemple Michel Thiébaud, directeur général de l'Office cantonal de l'emploi. D'autre part, il devient extrêmement difficile de trouver un emploi pour une femme qui n'a jamais travaillé ou a interrompu son activité professionnelle pendant plusieurs années pour rester au foyer et élever ses enfants. L'expérience de gestion et d'organisation que cela représente n'est pas encore du tout valorisée. Enfin, les chefs d'entreprise ont toujours tendance à considérer qu'employer une femme est plus largement source de problèmes. Par exemple, grossesse, congé maternité, absence supposée pour maladie des enfants, etc., etc. Et que tout ça n'arrive pas avec un homme. Alors, à compétences égales, la plupart de ces chefs d'entreprise donneront la préférence à un collaborateur. Pour toutes ces raisons, si l'on confronte les chiffres du dernier recensement fédéral de 1990 par profession exercée et ceux du chômage, on constate que dans les métiers de la santé, par exemple, les femmes ont été bien plus touchées, 4,2%, que les hommes, qui représentent 3,1%, donc par le chômage. C'est Pierre Paoli, responsable du secteur population, emploi et santé à l'Office cantonal de la statistique, qui nous donne ces chiffres. Pour ce qui est de l'enseignement et de l'éducation, elles ont un peu plus souffert que leurs collègues masculins, quoique dans une moindre mesure, l'enseignement étant largement aux mains de l'État. On constate 4,9% de femmes au chômage dans l'instruction publique pour 4,6% pour les hommes. Autre élément important, certains secteurs économiques qui ont de la peine à redémarrer sont largement féminins. C'est le cas de la vente et des professions du commerce. Les hommes y accusent un taux de chômage de 8,6%, celui des femmes étant de 11,4%. c'est le groupe Elastica. Elastica, c'est trois femmes, Justine Frischmann, Donnie Matthews et Annie Holland, et un mec à la batterie, c'est Justin Welch. Et c'était Justine Frischmann qui écrivait les chansons et les paroles. Ça, c'était une découverte pour aujourd'hui. Alors, Remue Ménage, c'est bientôt terminé, mais il me reste à vous faire partager le programme du Festival international du film de femmes de Créteil, qui va commencer le 22 mars prochain et qui durera jusqu'au 31 mars. Alors, qu'est-ce que vous pourrez y découvrir? Parce que nous espérons bien que vous allez y aller. Quant à nous, nous y serons. Nous y serons le premier week-end d'ouverture. Et nous serons, par exemple, le soir du gala d'ouverture du festival, vendredi 22 mars à 21h, pour découvrir un film surprise avec l'ensemble des réalisatrices que seront invitées pendant tout ce festival. Alors, le festival, bien sûr, reprend son exploration terrestre, puisque c'est terrestre, effectivement, des manières de faire du cinéma pour les femmes. Cette 18e édition éveillera, comme d'habitude, le regard au code culturel et artistique du cinéma et, bien sûr, sans jamais oublier la volonté de solidarité avec les femmes des pays moins favorisés. Alors, des films en compétition, ils viennent de différents endroits, par exemple du Canada, mais avec une double signature, femme chinoise et femme canadienne. Aussi films en compétition avec une réalisatrice espagnole, une réalisatrice hongroise, australienne, pour n'en citer que quelques-uns. Et puis, des longs-métrages documentaires, avec par exemple le film d'Anka Schmidt, réalisatrice suisse, qu'elle vient de terminer, qui s'appelle Magic Matterhorn, une satire absolument géniale. Peut-être vous avez déjà eu l'occasion de le voir, entre autres, il était montré à Genève il n'y a pas très longtemps. Donc Magic Matterhorn, une satire délicieuse du patriotisme suisse. On pourra aussi découvrir, toujours de la même réalisatrice espagnole qui présente un film fiction en compétition, eh bien un long métrage documentaire sur tout ce que nous pensons du sexe. Plus de 60 personnes âgées de 20 à 96 ans se sont assises face à la caméra de Chus Gutiérrez et pour leur parler de leur sexualité et de leurs relations affectives. Aussi un film documentaire qui vient par exemple d'une femme qui est grecque mais qui vit en Allemagne et qui parle des employés de maisons sri-lankaises qui sont exportés dans les pays riches. Des rencontres multinationales comme vous le voyez. Chaque année, hommage à une réalisatrice ou à une comédienne et cette année, c'est à la grande Maria Félix qui est cette passionnariat du cinéma mexicain que sera consacré l'hommage. Alors il y a une soirée de gala le vendredi 29 mars qui lui est consacrée, mais de nombreux de ses films le seront montrés tout au cours du festival. Et puis, une section particulière, c'est la croisée des regards avec les réalisatrices indiennes que nous rencontrerons plus particulièrement le samedi 23 mars dans la grande salle de la Maison des Arts et de la Culture de Créteil, mais dont les films seront montrés tout au long du festival. Il y aura par exemple la réalisatrice Aparna Sen qui montrera un film qui a pour titre Sati. Il y aura Mira Nair, que vous connaissez déjà parce qu'elle a fait ce fameux film que vous avez sûrement vu qui s'appelait Salam Bombay. Il y aura Pratibha Parmar, qui nous fera découvrir d'autres films qu'elle a réalisés. Et puis encore bien d'autres réalisatrices indiennes aussi qui ont fait des films longs-métrages documentaires. Et puis, il y aura des forums organisés pour parler soit de la conférence de Pékin, soit pour de nouveau échanger des regards avec les réalisatrices indiennes, ou bien carte blanche donnée à l'Association des femmes journalistes qui fête leur 15e anniversaire et donc qui réunissent lors d'un forum toutes sortes de femmes autour d'elles. Il y aura rencontre internationale des réalisatrices, avec en question la place du documentaire et le rôle des festivals et enjeux de l'image en présence donc de différentes réalisatrices et entre autres de Karine Saporta qui chaque année conçoit les affiches du festival. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Genre à part, je vois genre à part. Qu'est-ce que ça veut dire genre à part? Eh bien, genre à part, c'est toutes ces femmes qui s'emparent de l'humour et de la fantaisie et qui ont envie d'en parler et de donner l'espace principal dans leurs films. Alors, c'est des femmes comme Josiane Balasco, c'est Catherine Corsini et Claire Denis, mais cela peut être aussi Chantal Akerman, Nicole Garcia ou Claire Devers. Voilà, ces femmes, donc, dans genre à part. Et puis il y a toujours Graines de Cinéphage, ce jury composé de jeunes qui jugeront 6 films à leur programme, qui c'est ces films donc concernés, qui se sont consacrés aux jeunes. Il y aura des films, une série spéciale qui s'appelle Regards sur l'enfance, avec un film à la fois français, des films américains et un film indien, enfin co-réalisé par plusieurs personnes, Inde, USA, Grande-Bretagne, France. Voilà, alors de quoi vous donner un petit aperçu, bien sûr, hein. Il y a, vous savez bien, une centaine de films qui sont montrés chaque année à Créteil. Il y aura de nombreuses soirées de discussion et puis toujours ces fameuses discussions en piscine, comme on dit, c'est-à-dire ce lieu de rencontre à la sortie de chaque film où on peut rencontrer la réalisatrice, peut-être parfois aussi sa monteuse ou bien sa preneuse de son, parce que c'est ça aussi l'intérêt de Créteil, c'est rencontrer les techniciennes du cinéma. Voilà, alors je répète les dates, c'est du 22 mars au 31 mars à Créteil, Paris. Vous pouvez toujours téléphoner pour demander des renseignements. Entre autres, on vous propose des facilités pour trouver un logement à Créteil chez l'habitant, pour avoir des billets qui, à prix réduit de chemin de fer, etc., etc. Alors, le numéro de téléphone, c'est donc 0033, si vous appelez depuis Genève, 1-43-99-22-11. Je répète, si vous appelez depuis Genève, 0033-1-43-99-22-11. Voilà, alors encore un morceau de ces jeunes femmes élastiques, trois jeunes femmes et un homme élastique. Remue ménage aujourd'hui, c'est terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, ce sont les informels de Radio Pleine Lune. Et à 19h, les coups de cœur de Marjolaine.